Chers auditeurs de Radio Maria, on se retrouve pour notre émission sur la fertilité. Lors d'une première émission, nous avions reçu Nathalie Dronneau qui nous avait présenté la naprotechnologie. Lors de l'émission précédente, c'était Philippine Bienfait qui nous a parlé de la régulation naturelle des naissances avec le système Fertility Care. Et aujourd'hui, nous recevons le docteur Bénédicte Delors qui va nous parler des pathologies les plus courantes en naprotechnologie. Docteur Bénédicte Delors, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Oui, bien sûr. Alors je suis Bénédicte Delors. Je suis médecin généraliste formée à la naprotechnologie depuis 2012. Je suis mariée, nous avons 6 grands-enfants maintenant et nous avons la joie d'avoir 7 petits-enfants. Pour ma part, j'ai entendu parler de la naprotechnologie pour la première fois lors d'un congrès de bioéthique il y a quelques années. Et à cette époque-là, il n'y avait en France qu'un seul médecin formé qui consultait à la maternité catholique de Puy-Ricard, tout près d'Aix-en-Provence. Quand j'ai entendu parler de la naprotechnologie, une question m'a tout de suite habitée. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans le domaine du respect de la vie? Tu es médecin. Cette technique médicale permettrait de proposer aux couples qui ont des difficultés à concevoir une alternative à la procréation médicale assistée, vers laquelle ils ne souhaitent pas s'orienter pour différentes raisons. Voilà. Et c'est ainsi qu'à l'automne 2012, je me suis embarquée dans l'aventure naprotechnologie.
Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler des pathologies les plus courantes que vous rencontrez en naprotechnologie.
Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté les interventions précédentes, je vais juste faire un petit rappel. Nathalie nous a donc présenté, comme nous l'a rappelé Sandra, la naprotechnologie. Je redonne juste une définition de la naprotechnologie, qui est un terme un petit peu barbare, qui veut dire « natural procréation technologie ». C'est-à-dire, c'est une science médicale, c'est-à-dire qu'on va faire des examens, on va donner des médicaments, on va envoyer les gens chez des chirurgiens. Cette technique médicale a été mise au point par le professeur Ilgers aux USA, et elle consiste à restaurer ce qui ne fonctionne pas chez l'homme ou chez la femme pour favoriser une conception naturelle, c'est-à-dire une conception qui a lieu au cours d'une union sexuelle entre l'homme et la femme. Ensuite, Philippine nous a présenté la méthode de régulation des naissances Fertility Care de façon plus précise la dernière fois. Cette méthode d'observation du cycle est utilisée dans la prise en charge médicale en naprotechnologie. Le thème annoncé de l'émission d'aujourd'hui est les pathologies les plus courantes en naprotechnologie. Alors en préparant l'émission, je me suis dit que ce serait sans doute un petit peu fastidieux de faire une liste exhaustive des pathologies et que cela n'éclairerait peut-être pas les auditeurs sur la spécificité d'une prise en charge en naprotechnologie. En effet, l'objectif d'une telle prise en charge et de chercher et de comprendre les causes de l'infertilité afin de pouvoir les restaurer et de favoriser ainsi la survenue d'une grossesse sous la couette. J'attire votre attention sur le terme « restaurer ». En effet, les différents traitements médicaux ou chirurgicaux qui vont être mis en place ne conduisent pas toujours à une récupération complète d'une anatomie ou d'une physiologie qui reviendrait à la normale, mais suffisent bien souvent à améliorer la fertilité pour la mise en route d'une grossesse. En dehors de la restauration de la fertilité chez l'homme et chez la femme, les motifs de consultation en naprotechnologie peuvent être des fausses couches à répétition ou alors un dysfonctionnement du cycle chez une femme célibataire ou sans projet de grossesse. Aujourd'hui, je vais donc me limiter à la prise en charge des couples qui présentent des troubles de la fertilité. Mon intervention va se dérouler en 3 temps. Je vais d'abord vous faire un petit rappel sur ce qu'est l'infertilité. Ensuite, nous verrons ensemble les causes de l'infertilité chez la femme. Et là, je vous parlerai du tableau de fertilité qui est propre à la naprotechnologie, qui permet d'orienter le diagnostic, de faire des examens de façon plus ciblée et aussi de suivre un traitement mis en place. Et nous verrons ensuite les causes de l'infertilité chez l'homme. Alors, quelques rappels sur l'infertilité. Il faut savoir que l'infertilité touche 15% des couples en âge de procréer en France. Je rappelle que le délai moyen d'obtention d'une grossesse pour un couple qui ne présente aucune difficulté, qui est normalement fertile, ce délai moyen est de 6 mois. Alors évidemment, il y a des couples plus ou moins fertiles et on a tous dans notre entourage des couples qui n'ont aucune difficulté pour mettre en route une grossesse et d'autres chez qui ça prend un peu plus de temps. Donc le délai moyen, c'est de 6 mois. Lorsqu'au bout de 1 an de relations sexuelles régulières, il n'y a pas de grossesse, on conseille au couple de consulter. Cette durée peut évidemment aussi être modulable en fonction de l'âge, notamment pour une femme qui a déjà 35 ans, on n'attendra peut-être pas 1 an avant de lui proposer de faire un bilan. La fertilité d'un couple dépend de ses 2 membres. Il convient donc d'étudier les troubles de la fertilité chez l'homme et chez la femme. Pour faire vraiment très simple, on estime que dans 1/3 des cas, il y a un dysfonctionnement chez la femme, dans 1/3 des cas, un dysfonctionnement chez l'homme, et dans 1/3 des cas, les 2 sont en cause, c'est-à-dire qu'on retrouve des dysfonctionnements chez l'homme et chez la femme. Vous avez aussi certainement entendu parler d'infertilité inexpliquée lorsqu'aucune cause anatomique ou physiologique n'a été retrouvée. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de cause ou plutôt qu'elle nous échappe encore? Voilà, la question est posée. Je m'arrête un instant sur ce point. Je dis souvent aux patients que je rencontre pour la première fois que la fertilité est un domaine très vaste, très complexe et qui dépasse le seul facteur médical d'une anatomie et d'une physiologie qui fonctionnent. Je leur précise aussi que je représente une porte d'entrée médicale et que bien d'autres facteurs, notamment psychologiques, environnementaux, de rythme de vie, de stress, peuvent influer sur leur fertilité. Je suis moi-même souvent surprise dans mon expérience de la survenue d'une grossesse chez des couples qui peuvent avoir des pathologies assez lourdes et à l'inverse, de l'absence de grossesse chez d'autres pour lesquels il ne semble pas y avoir d'obstacle majeur. Cela nous rend très humbles. Nous ne comprenons et ne maîtrisons pas tout dans le domaine de la fertilité. Je vais maintenant aborder les causes féminines de l'infertilité. Chez la femme, le tableau de fertilité... Alors, je vais vous rappeler peut-être ce que c'est que le tableau de fertilité que Philippine a évoqué lors de son dernière intervention. Un tableau de fertilité est une grande feuille qui est remplie par le couple de façon précise et fiable avec des gommettes de différentes couleurs en fonction de leur observation, de l'observation que fait la femme. Donc, vous allez avoir des gommettes rouges pour les saignements, des gommettes vertes quand on n'observe rien et des gommettes blanches quand on a une observation de glaire ou d'écoulement. Voilà, c'est un système de cotation très précise dont vous avez un petit peu parlé, Philippine, et peut-être qu'on y reviendra dans une émission suivante. Donc ce tableau de fertilité apporte non seulement une aide au diagnostic pour le médecin, mais il va permettre également de programmer des examens en fonction du cycle et d'instaurer et de suivre les bénéfices d'un traitement mis en place. Je fais juste aussi un petit rappel maintenant sur le déroulé d'un cycle normal. Un cycle normal démarre le premier jour des règles. Après les quelques jours de saignement, il y a une phase de latence pendant laquelle il n'y a pas d'observation. Enfin, il y a une observation, mais il n'y a pas d'observation de glaire. Ensuite, il y a le cycle de glaire qui s'interrompt brutalement après l'ovulation. Les jours suivants, environ 15 jours, sont des jours secs où il n'y a pas de glaire et on parle de période post-ovulatoire. quels sont les éléments qui vont être apportés par ce tableau de fertilité et qui aident au diagnostic? Ces éléments ou encore indicateurs ou marqueurs sont le plus souvent relevés par l'instructrice lorsqu'elle voit le couple en rendez-vous, et le couple transmet ces éléments lors de sa consultation avec le médecin. Le premier élément qu'on va regarder, c'est la durée et la régularité du cycle. Est-ce que celui-ci est régulier? Est-ce qu'il est irrégulier? L'irrégularité d'un cycle peut orienter vers un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que ce cycle est anormalement long? C'est aussi le cas dans les syndromes des ovaires polykystiques. Est-ce que ce cycle est anormalement court? Ça peut refléter un problème d'ovulation ou un déficit hormonal. Est-ce que les différentes phases du cycle dont je vous ai parlé sont-elles présentes? Par exemple, est-ce qu'on a une période post-pic qui est normale ou diminuée, qui peut être le reflet d'une déficience en progestérone? Est-ce que le cycle de Gleyer est présent? Est-ce qu'il est absent? S'il est absent, ça peut être une pathologie du col utérin ou alors un trouble de l'ovulation. Est-ce que la période qui est juste après les règles, qui s'appelle la période de latence, est absente, ce qui va révéler une ovulation trop précoce, qui peut être un signe de préménopause? Le deuxième indicateur qu'on va regarder, c'est la présence d'écoulements ou de saignements anormaux. Est-ce que le cycle de Gleyer est trop long, qui peut être aussi le cas dans les ovaires polykystiques? Est-ce que cette glaire peut être épaisse, avec des critères qui ne semblent pas normaux, qui peut être révélateur d'une infection du col ou alors d'une infection vaginale? Est-ce qu'on a des saignements anormaux, c'est-à-dire des saignements qui vont se situer en fin de cycle, avant les règles, qui peuvent traduire un déficit en progestérone? Est-ce qu'il y a des saignements au moment de l'ovulation? Est-ce qu'il y a des saignements aléatoires un petit peu n'importe quand dans le cycle qui peuvent orienter vers la présence d'un polype, par exemple? Ou est-ce que ce sont des saignements qui surviennent après des rapports sexuels qui peuvent évoquer une pathologie du col, là encore? Sur ce tableau de fertilité seront aussi notés d'autres éléments qui peuvent être intéressants pour le médecin, comme la présence de céphalées, de douleurs abdominales, les fringales, les irritations, les tensions mammaires. Tous ces petits éléments vont nous aider à voir, à confirmer ou pas l'existence d'un syndrome prémenstruel en fonction des jours où se situent ces symptômes. On pourra aussi voir une douleur d'endométriose, on pourra aussi voir une douleur ovulatoire. Le tableau fertilité permet aussi de programmer des examens complémentaires qui seront synchronisés avec le cycle. En aprotechnologie, on peut être amené à faire des prises de sang en période post-ovulatoire, précisément au jour pic plus 7. Ça permet d'avoir un bon reflet de la qualité de l'ovulation en dosant l'œstrogène et la progestérone. Ce jour pic, vous le comprenez bien, est variable d'un cycle à l'autre et d'une femme à l'autre. Donc, c'est très important d'avoir une bonne observation pour pouvoir programmer cet examen le bon jour. On a tous en tête ces livres sur le cycle de la femme où on nous dit que l'ovulation est à J14. Alors, c'est certainement vrai pour beaucoup de femmes qui ont des cycles très réguliers de 28 jours. Mais en fait, le professeur Ilgers, dans ses nombreuses recherches, a fait des examens échographiques au moment du pic chez ses patientes. Et il a constaté, enfin, il a fait des examens échographiques au moment du pic et un petit peu les jours précédents et suivants. Et il a constaté que l'ovulation des femmes se situait entre 2 jours avant le pic et 2 jours après le pic. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle observe son pic, elle peut avoir ovulé 2 jours avant, ou 1 jour avant, ou le jour du pic, ou alors 1 jour après, ou 2 jours après. Voilà, la fourchette, en fait, est quand même assez large. On ne peut pas dire que le jour pic représente le jour d'ovulation. On ne sait pas. Voilà, on sait que c'est autour de ce jour. Un deuxième examen qui peut être aussi intéressant de programmer en fonction du cycle, c'est le monitorage échographique de l'ovulation qui va nous permettre de voir comment se déroule cette ovulation, s'il y a un bon développement du follicule, s'il y a une rupture du follicule qui libère l'ovule et une constitution de corps jaune. Pour programmer cet examen, la femme va se référer à ses trois précédents cycles et ainsi déterminer les dates où elle doit prendre les rendez-vous d'échographie. Voilà, ce sont deux exemples parmi d'autres. Ensuite, le tableau de fertilité va nous permettre de donner un traitement et de suivre le bénéfice de ce traitement. La plupart des traitements prescrits en naprotechnologie sont synchronisés avec le cycle. Je vais vous donner deux illustrations. On donne parfois aux femmes un fluidifiant pour améliorer la qualité de la glaire. Et ce traitement se prend à partir du premier jour de glaire observé jusqu'à pic plus 2. Un deuxième exemple de traitement, c'est la prise de progestérone quand il y a un déficit en progestérone. Ce traitement se prend en post-pic de pic plus 3 à pic plus 12. Donc au fil de cycle, on va voir si ce traitement est ajusté en voyant une normalisation du cycle, une amélioration par exemple aussi d'un score de glaire ou une disparition de saignements anormaux. Donc vraiment, le tableau de fertilité va nous donner des indications vraiment intéressantes qui sont pertinentes et vraiment spécifiques à la prise en charge en naprotechnologie. Après avoir vu cet apport du tableau de fertilité et évoqué quelques pathologies, le syndrome des ovaires polykystiques, les troubles d'ovulation qui sont causes d'infertilité, je vais voir avec vous d'autres causes d'infertilité chez la femme. Voilà, ça fait un petit peu catalogue et je m'en excuse. Je vais essayer d'être pas trop rébarbatif. Le premier facteur de difficulté à concevoir est un facteur auquel on ne pense pas spontanément, c'est l'âge. De 25% de chances de conception par cycle à 25 ans, on passe respectivement à 10% à l'âge de 30 ans et à 6% à l'âge de 40 ans. Je garde toujours en mémoire un de mes professeurs de gynéco qui, pendant ses cours, nous martelait « La fertilité de la femme n'a pas évolué depuis le Moyen-Âge. Une femme est fertile de 15 ans à 25 ans. » Alors évidemment, on va mettre un bémol sur cette affirmation. En fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que vraiment la fertilité diminue avec l'âge. Et c'est un fait, elle baisse à partir de 30 ans et plus encore après 35 ans. Le nombre des fausses couches et le nombre de risques d'anomalies génétiques, notamment de trisomie 21, augmentent ainsi avec l'âge. Pour vous donner une petite idée, je crois que l'âge moyen de la première grossesse en France est actuellement de 30 ans. Alors ensuite, après l'âge, les troubles de la fertilité chez la femme peuvent être dus à une pathologie des trompes de Fallope. Alors, un petit rappel anatomique là aussi, les trompes de Fallope sont situées de part et d'autre de l'utérus et elles vont servir à acheminer l'ovule jusqu'à la cavité utérine et aussi à capter l'ovule qui est libéré par l'ovaire. Si vous voulez, les deux petits tuyaux sont terminés par une sorte de parapluie qui va venir recouvrir l'ovaire et qui va attraper l'ovule en cas d'ovulation. Alors dans les livres, on a souvent une représentation très statique. Hein, on voit les ovaires, les trompes et les petits parapluies là, qui sont sur les trompes. En fait, dans la réalité, ces trompes sont vraiment très mobiles. Elles sont comme dansantes dans la cavité péritonéale. Et vous comprenez bien que si ces trompes sont obstruées ou si elles ont un défaut de mobilité, eh bien, l'ovule va avoir des difficultés à cheminer dans ce conduit ou alors même l'ovule ne pourra pas être capté par la trompe au moment de l'ovulation. Donc, qu'est-ce qui peut causer ces troubles de la mobilité dans la trompe? Les troubles de la mobilité sont dus essentiellement à des infections génitales hautes qui vont créer des adhérences au niveau de la cavité péritonéale et donc qui vont entraver la mobilité des trompes. Et il peut y avoir aussi une obstruction qui est due soit à quelque chose qui obstrue le conduit, comme des séquelles d'infection, ou alors une mobilité qui est un petit peu diminuée, par exemple à cause du tabac. Mais ça peut être aussi une compression externe par des lésions d'endométriose ou par une compression par une tumeur. Voilà, des choses qui vont causer une compression de la trompe. Alors, il faut savoir que si la trompe est un petit peu abîmée, il peut quand même y avoir une captation de l'ovule par la trompe. Cet ovule va commencer à cheminer, il va peut-être être fécondé par les spermatozoïdes, et puis l'œuf va avoir une difficulté à arriver dans la cavité utérine, et donc cela donne une grossesse extra-utérine. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Dans les autres causes d'infertilité féminine, on retrouve les ovaires polykystiques, les troubles de l'ovulation. On a aussi un syndrome qu'on appelle l'insuffisance ovarienne précoce, c'est-à-dire c'est un ovaire qui va arrêter de fabriquer des follicules en dessous de l'âge de 40 ans. On appelle cela aussi de façon inappropriée une ménopause précoce. En fait, cette insuffisance ovarienne précoce peut être due à des traitements médicamenteux comme les chimiothérapies, à une chirurgie si par exemple on est obligé d'enlever l'ovaire pour un cancer, ou alors on retrouve aussi des causes génétiques. Au niveau de l'utérus, on peut avoir la présence d'un fibrome, d'un polype, une muqueuse qui n'est pas propre à l'anidation. Il peut aussi y avoir des malformations, un utérus bifide, c'est-à-dire coupé en deux, un utérus cloisonné, voilà des malformations qui sont congénitales et qui peuvent empêcher une grossesse de se développer. On peut aussi avoir des troubles de la commande au niveau cérébral, parce que vous rappelez que la fertilité, voilà, la commande est cérébrale. Donc là, on est dans des causes plus complexes où la sécrétion hormonale n'est pas correcte et donc entraîne une absence de fonctionnement des ovaires. Donc je ne m'étends pas là-dessus, c'est un petit peu plus technique. Dans les autres causes féminines, vous avez certainement entendu parler de l'endométriose qui touche une femme sur 10 environ. Donc cette pathologie, malgré de nombreuses recherches, est encore assez inexpliquée. Enfin, la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme d'apparition de cette maladie n'est pas bien connu. En simplifiant, on peut dire que chez certaines femmes, des bouts de muqueuse utérine, la muqueuse utérine étant la fine membrane qui recouvre l'intérieur de l'utérus et qui se détache au moment des règles chaque mois pour donner les règles, ces petits bouts de muqueuse utérine vont aller, en passant par la trompe, se fixer sur les organes situés dans l'abdomen, dans la cavité péritonéale. On va retrouver des petits bouts de muqueuse sur les ovaires, sur la vessie, sur le rectum, sur les ligaments qui fixent l'utérus au sacrum. On a même décrit des lésions dans les poumons. Donc chaque mois, ces petits bouts de muqueuse subissent les mêmes transformations sous l'influence des hormones que la muqueuse de l'utérus. Vous allez donc avoir des saignements dans la cavité péritonéale, dans l'abdomen, qui, à moyen terme, vont former des kystes, des adhérences et surtout un climat inflammatoire qui est vraiment pas bon pour une bonne fertilité. Les symptômes de cette maladie sont très variables, allant de douleurs invalidantes au moment des règles, qui peuvent entraîner des arrêts de travail, des malaises, aussi à des douleurs chroniques qui ont des localisations parfois étonnantes. Je me souviens d'une patiente qui avait une localisation très précise au niveau de l'ombilique. Cette femme peut aussi avoir, enfin, les femmes peuvent aussi avoir de l'endométriose sans manifestations douloureuses. Et les manifestations douloureuses ne sont pas du tout corrélées à la gravité des lésions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une femme très douloureuse qui a quelques lésions et une femme qui n'est pas du tout douloureuse et qui peut déjà avoir une endométriose très importante. La proposition de traitement de cette pathologie dans une prise en charge en aprotechnologie, dans le cadre de l'infertilité, est une chirurgie qui va essayer d'enlever toutes ces lésions pour améliorer les chances de conception en fonction, bien sûr, du stade de la maladie. Donc voilà, c'était les principales causes d'infertilité chez la femme. Voyons maintenant les causes de troubles de fertilité chez l'homme. Chez l'homme, l'examen fondamental qui va orienter le diagnostic est le spermogramme. C'est un examen qui est quasi incontournable. parce qu'il permet d'analyser la qualité du sperme. Alors, le prélèvement se fait habituellement dans un laboratoire, ce qui n'est pas toujours très facile et bien vécu pour les hommes. En Aprotechnologie, nous proposons de faire cet examen à domicile, mais ce n'est pas souvent réalisable parce que il faut vraiment acheminer l'échantillon, le recueil très rapidement au laboratoire et parce que bien souvent les laboratoires refusent ce recueil à domicile. Alors le petit bénéfice actuel pendant la crise sanitaire, c'est que les laboratoires proposent plus facilement le recueil à domicile en cette période de Covid. On peut avoir aussi des bénéfices à ce que nous traversons actuellement. Alors, qu'est-ce que peut relever le spermogramme ? Il peut relever une anomalie du nombre des spermatozoïdes. Il peut y avoir zéro spermatozoïde dans le sperme. C'est ce qu'on appelle une azoospermie. Cette pathologie ne pourra pas être prise en charge par la naprotechnologie. On peut aussi avoir une diminution du nombre des spermatozoïdes qui s'appelle une oligospermie. On peut avoir une anomalie de mobilité des spermatozoïdes qui s'appelle une asténospermie. Vous savez que c'est très important que les spermatozoïdes soient mobiles pour aller rejoindre l'ovule parce que le trajet est quand même assez long entre le moment où ils sont déposés au niveau du col de l'utérus jusqu'à la trompe. Ensuite, il peut y avoir une anomalie de forme qu'on appelle tératospermie. Ou alors, on peut aussi retrouver des spermatozoïdes morts qui s'appellent nécrospermie. Ces différentes anomalies peuvent être combinées et peut-être avez-vous déjà entendu parler d'oligo, asténo, térato, spermie, ce qui veut dire qu'on n'a pas assez de spermatozoïdes, qu'en plus ils sont fatigués et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont en forme normale. À quoi ces anomalies peuvent être dues ? À beaucoup de facteurs, comme par exemple des traumatismes au niveau du testicule, un choc, un accident, une torsion de testicule, à des infections virales dont la plus connue est les oreillons ou d'autres infections, maladies sexuellement transmissibles, à des traitements médicamenteux, la chimiothérapie, la radiothérapie, à une exposition de produits toxiques, à la drogue, au tabac, au cannabis, à l'alcool, à différents polluants, à une source de chaleur trop importante, ça c'est une source relativement facile à modifier, enfin, quoique, pas toujours, par exemple chez les boulangers, une station assise prolongée, des jeans trop serrés. Dernièrement, j'ai vu des patients dont le monsieur avait un fauteuil chauffant dans son véhicule. Voilà, cette chaleur peut aussi être due, cette chaleur trop importante peut aussi être due à une cryptorchidie, c'est-à-dire un testicule qui est resté en position abdominale et qu'on va avoir descendu par intervention chirurgicale dans l'enfance, mais qui peut ne pas suffire. Ou alors, il y a une pathologie qui est aussi relativement fréquente, qui s'appelle le varicocèle, qui est une sorte de varice qui va réchauffer en fait le testicule et qui va entraîner des troubles au niveau des spermatozoïdes. Voilà, la plupart de ces causes sont réversibles et peuvent donc être prises en charge en aprotectologie, en donnant par exemple un traitement antibiotique pour une infection, en soignant la varice varicocèle, en arrêtant le tabac, etc. Les autres causes de troubles de la fertilité chez l'homme peuvent être situées sur les canaux qui conduisent les spermatozoïdes en dehors de l'organisme, sur les voies génitales donc. Et aussi, évidemment, on pense à tout ce qui est troubles de l'érection et de l'éjaculation, qui ont parfois des causes psychologiques, mais aussi qui peuvent être dues à des causes neurologiques, ou la prise de certains médicaments, notamment certains hypertenseurs, ou alors qui peuvent être liés à une intervention chirurgicale. Voilà. Donc, pour conclure, je voulais vous dire que parmi ces nombreuses causes d'infertilité que nous avons vues chez l'homme et chez la femme, il y a des situations où une prise en charge en aprotechnologie, c'est-à-dire une prise en charge qui va restaurer ou réparer ce qui ne fonctionne pas, ne sera pas possible. C'est notamment le cas pour l'homme si on a une azoospermie, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout spermatozoïde. Je vais juste une petite parenthèse, l'azoospermie, le diagnostic ne se fait pas sur un seul recueil, il va falloir faire au moins deux spermogrammes pour affirmer ce diagnostic, pour vraiment être sûr que c'est irréversible. On fera évidemment d'autres examens que je ne détaille pas ici pour confirmer ce diagnostic, mais comme là on n'a pas de spermatozoïdes, on ne peut évidemment pas avoir une conception naturelle. chez l'homme. Donc voilà, la zoospermie. Après, il peut y avoir d'autres causes, mais voilà, je ne détaille pas ici. Chez la femme, les causes qui ne seront pas possibles en aprotechnologie, c'est l'insuffisance ovarienne précoce. Voilà, si elle est avérée, s'il n'y a plus de follicules dans l'ovaire, on ne pourra pas avoir d'ovules et donc on ne pourra pas faire une conception naturelle. Et s'il y a également une obstruction des trompes qui n'est pas accessible à une chirurgie réparatrice, on ne pourra pas non plus prendre en charge en aprotechnologie cette patiente. Alors, ça n'empêche pas, si on ne peut pas proposer un traitement réparateur, d'accompagner le couple. Les autres causes, vous avez vu qu'elles sont nombreuses, peuvent être prises en charge par l'anaprotechnologie. En dehors de cet aspect purement médical qu'on a abordé là aujourd'hui, je voulais brièvement évoquer tout à l'heure, l'approche de l'anaprotechnologie est aussi une approche globale. Et évidemment, avec tous ces examens qu'on va faire pour rechercher ces causes dont je vous ai parlé aujourd'hui, on va aussi interroger sur le rythme de vie, l'alimentation, le stress, tout ce qui fait la vie en fait, de l'homme et de la femme. Tout leur environnement est aussi important. Et parfois, des petits changements dans le rythme de vie ou un changement de travail ou un changement de lieu ou enfin, voilà, peuvent aussi favoriser une mise en route d'une grossesse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère n'avoir pas été trop complexe au niveau des termes. S'il y a des propos qui ont pu choquer ou blesser certaines personnes, je vous en demande sincèrement pardon.
Docteur Bénédicte Delors, peut-être une question sur donc les causes d'infertilité chez la femme. Est-ce que le poids joue un rôle ?
Le poids, c'est ça ?
Le poids, oui. Est-ce que le fait d'être en surpoids ou au contraire d'être maigre, est-ce que ça a un rôle, ça joue un rôle sur, est-ce que ça a une influence sur la fertilité ?
Alors oui, effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais vous avez raison de le relever. Les problèmes de poids qui sont en excès ou en déficit peuvent entraîner, jouer sur la fertilité. Notamment, je pense au déficit de poids quand les femmes ont des troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie mentale. Bien souvent, ces femmes n'ont plus leurs règles parce qu'en fait, il y a un dérèglement au niveau central qui va évidemment empêcher l'ovulation et donc rendre ces femmes de façon provisoire infertile. Il peut y avoir une réversibilité, mais parfois il peut aussi, si cette anorexie dure trop longtemps, ça peut parfois être irréversible. On a aussi l'exemple des sportives de haut niveau qui ont une pratique intensive sportive qui peut entraîner aussi un trouble de la fertilité, ce qu'on appelle une absence de règles, une aménorrhée. À l'inverse, quand une personne a un surpoids, voire une obésité, cela entraîne effectivement des troubles de l'ovulation. Alors évidemment, quand une femme souhaite avoir une grossesse, on conseille toujours de perdre un petit peu de poids parce que non seulement ça va favoriser la fertilité, mais aussi parce qu'une grossesse, quand on est en surpoids ou quand on est en obésité, est une grossesse beaucoup plus compliquée pour la femme et pour l'enfant. Alors l'obésité, enfin le surpoids se retrouve notamment dans ce syndrome que j'ai évoqué qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, où on a comme un trouble du métabolisme du sucre et voilà, qui peut aussi entraîner ce surpoids. Donc on propose aux femmes certains soit un traitement, soit en premier lieu un régime. Faire attention à tout ce qui est sucre, enfin voilà, tout ça c'est des choses un peu techniques. Mais effectivement, les problèmes de poids dans un sens ou dans un autre peuvent rendre difficile la fertilité d'une femme.
Et donc vous avez dit, donc chez les personnes anorexiques, la possible absence de règles, est-ce qu'au contraire, le fait d'avoir des règles régulières, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas de trouble de l'ovulation ?
Alors, a priori, oui, si ce sont vraiment des règles et pas des saignements, en fait. Donc, si a priori vous avez un cycle qui est normal, hein, comme on l'a décrit en première partie d'émission, a priori vous avez une ovulation. Mais en fait, c'est parfois pas aussi simple. C'est-à-dire qu'on peut avoir des cycles qui paraissent normaux, mais sur lequel l'ovulation ne se passe pas correctement. C'est-à-dire que l'ovulation, il y a un trouble de l'ovulation qui peut empêcher une fertilité.
Donc, et c'est là que les gens pensent à ce moment-là qu'il y a une infertilité inexpliquée alors qu'ils s'arrêtent à l'aspect extérieur des choses.
Alors, je pense qu'on ne peut parler d'infertilité inexpliquée que lorsqu'on a conduit des examens, qu'on a vraiment exploré chez l'homme et chez la femme tout ce qui pouvait entraver la fertilité. On ne peut pas dire simplement sur l'observation d'un cycle, mon cycle est normal et pour moi, et voilà, donc je n'explique pas l'absence de grossesse. On ne peut pas s'arrêter simplement à l'observation du cycle. L'observation du cycle ne suffit pas à affirmer un diagnostic d'infertilité. Il faut vraiment faire des examens complémentaires. Alors, je ne sais pas s'il y a une émission qui est prévue là-dessus, sur les examens qu'on fait en appro, qui sont des examens tout à fait classiques, hein, de prise de sang, d'échographie, voilà, d'examens qui recherchent une possible cause de troubles de la fertilité.
Et peut-être une dernière question. Vous avez parlé d'insuffisance ovarienne précoce. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la ménopause précoce ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que. Alors, le terme, effectivement, commun, c'est la ménopause précoce. Voilà, le terme un petit peu plus médical, ça s'appelle l'insuffisance ovarienne précoce. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ovaire qui arrête de fonctionner de façon trop rapide, quoi. C'est-à-dire que l'âge moyen de la ménopause, c'est 50 ans. Et quand un ovaire arrête de fonctionner à 40, voire 30 ans, parce qu'il y a des femmes qui ont subi des chimiothérapies, qui ont joué sur l'ovaire, voilà, ces femmes de 30-35 ans se retrouvent voilà, comme si elles étaient effectivement en ménopause avec tous les signes de ménopause. Alors évidemment, on ne les laisse en général pas comme ça, et souvent un traitement hormonal substitutif leur est proposé pour éviter les problèmes d'ostéoporose ou de problèmes cardiovasculaires qui sont plus fréquents.
Je connais une famille où dans la fratrie deux filles se sont retrouvées ménopausées à 30 ans et elles n'avaient pas eu de pathologie particulière type cancer auparavant. C'était apparemment un problème de famille.
Oui, c'est ça, bien sûr. Là, j'ai évoqué la chimiothérapie, mais il y a différentes causes. Quand on reçoit une femme qui a ce symptôme, on fait évidemment un bilan étiologique, c'est-à-dire qu'on va chercher quelle peut être la cause. Et effectivement, dans ces causes, il y a les origines génétiques, voilà, donc qui peuvent être du coup familiales.
Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, docteur Bénédicte Delors, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose en conclusion ?
Alors, je voulais vous remercier de nous avoir invités et proposé ce cycle de conférences pour mieux faire connaître la naprotechnologie. Et voilà, et moi, depuis... le moment où j'ai commencé, je trouve que c'est une aventure humaine vraiment très très riche. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse d'être au service des couples qui ont des problèmes de fertilité, mais aussi de ces femmes qui ont des troubles du cycle ou alors des fausses couches à répétition. Voilà, la naprotechnologie permet une prise en charge de vraiment un vaste domaine. Voilà.
Alors, merci beaucoup. On vous retrouvera pour une prochaine émission. Je crois que ce sera sur la spécificité de la naprotechnologie par rapport à la PMA.
D'accord.
Merci
beaucoup. Eh bien, à la prochaine fois. Alors, merci.
Merci. Au revoir.